de Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français présente les nouvelles, les informations et les divertissements de l'Indonésie. Vous pouvez écouter notre émission tous les jours à la fréquence d'ondes courtes 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Bonsoir et bienvenue à tous. Comment allez-vous? Je suis très heureux de vous retrouver dans l'émission quotidienne en français diffusée depuis Jakarta. Vous êtes avec moi, Audrey. Chers amis, nous allons vous présenter un certain nombre de programmes comme le journal, les commentaires et d'autres infos comme l'histoire d'aujourd'hui, mon Indonésie, le magazine culturel, l'Indonésie en couleur et des chansons indonésiennes. Mon cher auditeur, nous commençons par le journal. Soyez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id.
RRI, la voix de l'Indonésie, avec le journal.
Chers auditeurs, bonsoir. Voici le journal. Nous commençons avec les titres. La Chine soutient activement l'Indonésie au sommet du G20. L'Agence de protection des données personnelles est désignée par le président, a affirmé le ministre de la Communication et de l'Information. TNI coopère avec BSSN pour la cybersécurité au sommet du G20. TNI déploie des navires de guerre et des avions de chasse pour sécuriser le sommet du G20. Le ministre Erick Thohir rencontre les responsables de la Dorna pour discuter du MotoGP 2023. Le premier jour, le 37e TEI a enregistré des transactions d'1,19 milliard de dollars américains d'accords commerciaux. Un certain nombre de pays sont sûrs d'assister aux Jeux mondiaux de plage de la NOC Bali 2023. Voici le journal complet. La Chine soutient activement l'Indonésie en tant que président du groupe D20P ou G20 et soutient le thème « Récupérer ensemble, récupérer plus fort » énoncé lors du sommet de Bali. C'est ce qu'a souligné le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Ma Chai-shi, lors d'un point de presse en vidéo streaming en mars du 20e Congrès national du Parti communiste chinois, PCC, à Pékin jeudi. Cependant, Ma n'a pas été en mesure de confirmer lequel des dirigeants chinois participera au 17e sommet du G20. Le président Joko Widodo nommera et établira une institution chargée de la protection des données personnelles. C'est ce qu'a déclaré le ministre de la Communication et de l'Information, Menkominfo, Johnny Plate, après le lancement des réalisations de performance 2022 du gouvernement du président Joko Widodo, Ma'ruf Amin, au bâtiment Binagaha à Jakarta jeudi. Les devoirs et les responsabilités de ces institutions seront élaborés plus en détail dans un règlement dérivé de la loi numéro 27 de 2022 sur la protection des données personnelles, PDP, qui peut être sous la forme d'une réglementation présidentielle ou décret présidentiel. Platé a ajouté que le gouvernement prépare toutes les réglementations dérivées, y compris celles liées aux agences de protection des données personnelles, pour mettre en œuvre la loi sur la protection des données personnelles, PDP. Johnny a déclaré que le public devrait être reconnaissant que la loi PDP ait été adoptée par le DPR et signée par le président Jokowi. L'armée nationale indonésienne, TNI, collabore avec l'Agence nationale de la cyber et du mot passe d'État, BSSN, pour la cybersécurité lors du sommet du G20, les 15 et 16 novembre à Bali. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef des forces armées nationales indonésiennes, le général TNI Andika Perkasa, lors de la conférence de presse Croatian G20 Update, surveillée depuis la chaîne YouTube Kominfo TV à Jakarta jeudi. Le TNI, dans ce cas, fournit des éléments de TNI qui sont également impliqués dans le domaine du cyber, comme l'unité de la cyber de l'armée nationale indonésienne ou le SAT Cyber TNI et l'agence d'intelligence stratégique de TNI, BAIS. L'armée nationale indonésienne TNI déploiera 12 navires de guerre et 4 avions de chasse appartenant à l'armée de l'air indonésienne pour sécuriser le sommet du G20 à Bali les 15 et 16 novembre 2022. Cette sécurité comprend la sécurisation ou l'assistance des navires militaires des pays participants qui peuvent être envoyés. C'est ce qu'a déclaré le commandant en chef de TNI, le général TNI Andika Perkasa, lors d'une conférence de presse en ligne surveillée par Antara jeudi. Pendant ce temps, l'armée de l'air prépare 4 avions de combat, à savoir 2 unités F-16 et 2 avions Sukhoi, Su-27 et Su-30. Le TNI a également préparé 6 hélicoptères de l'armée de l'air, 5 hélicoptères de la marine et 2 hélicoptères de l'armée de terre. Le TNI a également préparé 19 bases aériennes qui seront utilisées dans la mise en œuvre du sommet du G20. Le ministre des Entreprises d'État, BUMN, Erick Thohir, a tenu une réunion avec des responsables de Dorna, le détenteur des droits commerciaux du MTG, je veux dire du MotoGP, pour discuter des préparatifs du MotoGP 2023 qui se tiendra en octobre. Le ministre Erick Thohir à Jakarta mercredi soir 19 octobre a déclaré que la réunion visait à garantir que la préparation de l'événement sportif MotoGP en 2023 puisse se dérouler mieux que celle qui s'est tenue en mars 2022. Le ministre Erick a expliqué qu'actuellement, l'infrastructure du circuit continue d'être améliorée, comme les réparations régulières de l'asphalte pour maintenir la cohérence de la qualité de la piste. En outre, le ministre Erick Thohir a également évoqué l'événement World Superbike qui se tiendra en novembre et il prévoit de relier l'événement World Superbike à Lombok, Nusa Tenggara Occidental, à la réunion du G20 à Bali. Le ministre espère que les délégations des pays membres du G20 pourront d'abord visiter le World Superbike à Lombok avant de tenir la conférence de haut niveau du G20 à Bali. La 37e Exposition indonésienne du commerce, TEI, a enregistré des transactions de 1,19 milliard de dollars américains ou l'équivalent de 18,45 milliards de roupies le premier jour de la plus grande foire commerciale d'Asie du Sud-Est. La transaction a été signée simultanément par des acheteurs de 14 pays avec 100 accords commerciaux conclus à la Convention de l'exposition d'Indonésie AIS Bumi Serpong Damai BSD à Banten. Le ministre du Commerce, Zulkifli Hasan, qui a assisté à la signature, a apprécié l'enthousiasme des exportateurs et des partenaires commerciaux qui avaient assisté et joué un rôle actif dans la signature simultanée. Les 100 accords commerciaux consistent en 99 protocoles d'accord et une lettre d'intention. Les marchandises échangées comprennent les aliments et les boissons, les produits de beauté, les épices et les pneus de véhicules à moteur. Un certain nombre de pays ont confirmé leur participation aux deuxièmes Jeux mondiaux de plage du Comité national olympique (NOC) à Bali 2023. Après que le Comité olympique indonésien NOC Indonésie ait fait une présentation lors de la 16e Assemblée générale annuelle du Comité national olympique ANOC à Séoul en Corée du Sud. C'est ce qu'a déclaré le président du Comité olympique indonésien KOI Raja Sabta Oktohari lors d'une conférence de presse en ligne jeudi. Il a déclaré que les participants à l'Assemblée générale de la CNO ont été émerveillés par la présentation de l'état de préparation des deuxièmes Jeux mondiaux de plage de la CNO Bali 2023 qui se dérouleront du 5 au 12 août de l'année prochaine. Selon Rajab Sabta, environ 1500 délégués de 205 pays participeront aux deuxièmes Jeux mondiaux de plage de la NOC Bali 2023. Chers auditeurs, c'était le journal de la Voix d'Indonésie à Jakarta. Amour, 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 Indonésie.
Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le commentaire d'aujourd'hui intitulé Australie ne reconnaît plus Jérusalem Ouest comme capitale d'Israël. Vous êtes avec moi, Audrey. Cher directeur, l'Australie, par l'intermédiaire de la ministre des Affaires étrangères, Penny Wong, a déclaré mardi 18 octobre que son pays retirait la décision du gouvernement précédent de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël. Pendant le gouvernement de 2018 du premier ministre Scott Morrison, l'Australie avait décidé de reconnaître Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël, suivant les traces de l'ancien président américain Donald Trump. La décision audacieuse de l'Australie a reçu le soutien et les éloges de divers pays, dont la Palestine. Le premier ministre palestinien Mohamed Stayeh a déclaré que la décision était conforme au droit international. L'attitude de l'Australie montre que le monde n'accepte pas l'annexion par Israël des territoires palestiniens. Selon Mohamed Stayeh, cela prouve également le respect et l'alignement de l'Australie avec les valeurs de vérité, de justice et de liberté et les droits légitimes du peuple palestinien. Le soutien est également venu d'Indonésie. Mardi 18 octobre, l'Indonésie a déclaré qu'elle se félicitait de la décision du gouvernement australien de révoquer la reconnaissance de Jérusalem comme capitale d'Israël. L'Indonésie apprécie également l'affirmation de l'Australie selon laquelle elle soutient une solution à deux États au conflit israélo-palestinien avec des frontières internationalement reconnues. Le gouvernement israélien est certainement déçu de la décision de Canberra. La directrice politique du ministère israélien des Affaires étrangères, Aliza Binnon, lors d'un entretien avec l'ambassadeur australien Paul Griffiths, mardi 18 octobre, heure locale, a exprimé sa déception. Il a qualifié la décision du gouvernement Anthony Albanese de mauvaise décision. Selon lui, la décision risque d'encourager les éléments extrémistes en Cisjordanie à continuer d'alimenter la violence et de déstabiliser la région. La déception est également venue du premier ministre israélien Yair Lapid, qui a qualifié la décision de réponse hâtive aux fausses informations dans les médias. L'attitude de l'Australie mérite d'être appréciée. On espère que les États-Unis, sous l'administration Joe Biden, suivront l'exemple de l'Australie et modifieront les politiques prises par l'ancien président Donald Trump. La décision de soutenir Jérusalem-Ouest comme capitale d'Israël est une décision unilatérale qui découle des mesures prises par la majorité de la communauté internationale. Espérons que cette décision australienne sera une étape qui pourra contribuer positivement aux efforts visant à résoudre pacifiquement le conflit palestino-israélien et soutenir une solution à deux États, comme l'a déclaré le ministère des Affaires étrangères de la République d'Indonésie. Bon, chers auditeurs, c'est tout, le commentaire.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo choku yo shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bishaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Maske. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Merci d'écouter la voix de l'Indonésie diffusée depuis Jakarta. Chers amis, voici l'histoire aujourd'hui, le 21 octobre. Le 20 octobre 1944, les troupes japonaises ont mené un attentat suicide. Les troupes japonaises ont mené un attentat suicide pour la première fois. Cette action est appelée kamikaze. Cette attaque a frappé le navire australien HMAS qui a été touché par un avion japonais le 21 octobre 1944. À cette époque, les troupes japonaises transportaient une bombe pesant 200 kg dans les eaux près de l'île de Leyte aux Philippines. À la suite de l'attaque, 30 membres d'équipage du navire HMAS ont été tués. Le 21 octobre 1966, la tragédie d'Aberfang. Le décès de charbon à Aberfang au Pays de Galles en Angleterre, glissement le terrain le 21 octobre 1966 et tuant 144 personnes. La majorité des décès étaient des enfants qui étaient assis dans leur salle de classe à l'école. Il y a environ 140 000 mètres cubes de déchets de charbon qui descendent très rapidement et détruisent tout sur leur passage. L'avalanche a détruit deux cabanes de ferme et enseveli une école primaire appelée Pantlas Junior School. Cet événement est devenu connu sous le nom de tragédie d'Aberfang et devenu l'une des pires catastrophes minières au Royaume-Uni. Le 21 octobre 2010, le Myanmar a changé le drapeau national. Le gouvernement du Myanmar a décidé de changer son drapeau national le 21 octobre 2010. Ils ont ensuite officiellement introduit le nouveau drapeau. Initialement, le drapeau de Myanmar était rouge et bleu avec l'image d'une roue dentée entourée de 14 étoiles et d'un brin de riz au milieu. Maintenant, le nouveau drapeau est jaune, vert et rouge, avec une grande étoile blanche au milieu. Chers amis, c'était l'histoire aujourd'hui.
Cinta, 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 Indonesia. Negeri bagaikan permata, pesada bermandi cahaya. Oh, tanah air beta nan elok rupawan. Inilah senandung pujaan. Cinta, cinta, cinta Indonesia.
laut dan biru terbentang, di langit bertaburan bintang. Oh ibu pertiwi ku nan elok rupawan, inilah lagu persembahan. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kesyaduan suara seruling, kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku padamu. Ya Tuhan, ku dengar bisikmu di kejaduan suara seruling, kala malam yang hening menggugah jiwaku, menyadarkanku senantiasa setia mengabdi berbakti. Dan aku pun berseru, oh cinta, cinta, cinta Indonesia. Padamu beta telah menyatu, padamu beta akan setia. Oh tanah tumpah darah dan suci mulia, inilah janjiku pada.
Chers amis, c'était la première chanson pop indonésienne pour ce soir. Qu'est-ce que vous en pensez? C'était belle la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Et voici donc le programme Mon Indonésie. Bonne écoute.
C'est Zeritak, bonsoir. Pour l'arbitre suivante, voici donc Mon Indonésie. Et pour le titre, la ministre des Finances met l'accent sur l'augmentation de la productivité économique en 2023. La ministre des Finances, Sri Mulyani, a déclaré qu'elle continuerait à se concentrer sur l'amélioration des fondamentaux économiques en termes de productivité grâce aux dépenses de qualité de la part du gouvernement central et du gouvernement régional. C'est ce qu'a affirmé la ministre Sri Mulyani dans le webinaire intitulé « Accélérer la reprise économique » suivi par l'agence de presse Antara mercredi le 19 octobre dernier. Sri Mulyani a déclaré qu'en 2023, les défis économiques ne viendront pas seulement de la pandémie, mais aussi de la guerre qui entraîne des contraintes d'approvisionnement. Pendant ce temps, la demande continue d'augmenter. Il a également déclaré que la reprise est toujours attendue, mais que l'Indonésie doit encore être vigilante. L'Indonésie doit maintenir la demande antérieure pour que les dépenses gouvernementales soient sélectives, car le gouvernement doit anticiper les risques de hausse des taux d'intérêt, de raffermissement du dollar et d'inflation due à la hausse des prix des matières premières. Il a en outre déclaré qu'en termes de recettes, le gouvernement continuera à mener des réformes, entre autres à travers la mise en œuvre de la loi sur l'harmonisation de la réglementation fiscale. Le gouvernement indonésien doit également maintenir le volet financement car le risque se déplace vers le secteur des marchés financiers. En termes de dépenses, le gouvernement continuera de se concentrer sur les politiques prioritaires, y compris l'amélioration des ressources humaines, de sorte que 20% des dépenses de l'État, soit environ 612,2 billions de rupiah, soient allouées au secteur de l'éducation. Les dépenses de protection sociale qui atteindront 479,1 billions de rupiah en 2023 continueront également d'être ajustées en fonction des chocs économiques qui se produisent. La protection sociale comprend divers programmes tels que le programme de support familial, PKH, le programme de carte des aliments de base, PBI, et les bénéficiaires de l'aide financière et l'assurance maladie nationale, JKN. Les dépenses d'infrastructure d'une valeur de 392,02 billions de rupiah seront axées sur la construction d'infrastructures de services de base tels que les hôpitaux et l'achèvement de la construction du projet stratégique national PSN, créer une connectivité qui favorise la reprise économique nationale. La ministre Sri Mulyani a en outre déclaré que les dépenses de santé étaient maintenues à 5% des dépenses de l'État, que comme les dépenses de traitement de la COVID-19 avaient été considérablement réduites, les dépenses étaient axées sur la construction d'établissements de santé, à la fois le service de santé primaire et secondaire et l'amélioration générale des prestations de services. Serge Ritter, c'était mon Indonésie pour ce soir.
De Jakarta, voici la voix de l'Indonésie. La diffusion en français. Chers auditeurs, c'était la deuxième chanson pop indonésienne. Vous aimez bien la chanson? Chers amis, vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voines.id. Chers auditeurs, maintenant nous allons présenter les magazines culturels. Bonne écoute. Chers auditeurs, bonsoir, c'est le temps pour l'émission des magazines culturels. Vous êtes avec moi Audrey et je vais vous présenter la cascade Tunan de Minahasa, Sulawesi du Nord. Chers amis, en voyageant dans le nord de Sulawesi, nous vous recommandons de visiter Minahasa. Il existe diverses destinations touristiques intéressantes à Minahasa, allant des excursions en montagne, des lacs, des cascades, de l'histoire aux plages. Cette fois, nous présentons l'une des cascades de Minahasa. Son nom est la cascade de Tunan. En vous dirigeant vers la cascade de Tunan, vous avez besoin d'environ 60 minutes depuis le centre de la ville de Manado. De l'aéroport Samratulangi, il faut environ 45 minutes pour voyager. Pour entrer dans cette attraction touristique, vous devez payer un tarif de 10 000 de roupies et moto 5 000 de roupies, alors que le droit d'entrée par personne est de 250 000 de roupies. Chers amis, depuis le parking, vous devez parcourir le chemin jusqu'à 400 mètres pour arriver à l'emplacement de la cascade. Le voyage ne sera pas fatigant, car vous pourrez profiter du magnifique panorama forestier en cours de route. La cascade de Tunan provient d'une rivière au-dessus de la montagne qui coule assez rapidement à travers des falaises abruptes, d'une hauteur d'environ 86 mètres. L'atmosphère de la forêt naturelle qui est vierge et naturelle ajoute à la beauté autour de l'objet du tourisme de nature. Pour ceux d'entre vous qui veulent découvrir la fraîcheur de la cascade de Tunan, vous pouvez nager dans les piscines naturelles disponibles. Cette piscine a une profondeur d'environ 1,5 mètres. C'est juste que si le débit de la cascade est élevé, évitez de vous y baigner. Si vous ne voulez pas nager, vous pouvez simplement vous baigner dans la piscine. Il y a plusieurs gros rochers sous la cascade qui peuvent servir de siège. Les falaises autour de la cascade de Tunan sont souvent utilisées comme lieu d'escalade par les amateurs de sports extrêmes. Cependant, cette activité est déconseillée à ceux d'entre vous qui sont encore amateurs. La zone forestière autour de la cascade n'est pas moins intéressante à explorer. Vous pouvez rencontrer la faune de la forêt. L'attraction touristique de la cascade de Tunan est équipé d'un belvédère comme lieu de repos. Il y a aussi une salle de bain et un grand parking. Bon, chers auditeurs, c'est tout le magazine culturel.
Pergi, dia yang dulu tak dapat menggantikan. Slow down girl, I'm in the pearl. Yeah, I know I'm the one buat hati tertawan. Baby, you're that, it's making me crazy thinking about ya. I know this is love, whenever I'm with you, ini nyokap penghulu. Baby, you're that, it's making me crazy thinking about ya.
Serge Littard, c'était la troisième chanson pop indonésienne. Et comment? Vous aimez bien la chanson? Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde. Pour la rubrique suivante, voici donc l'Indonésie en couleur. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous, maintenant c'est le temps pour l'Indonésie en couleur intitulé « Les étudiants de l'ITS utilisent la bagasse de canne à sucre pour produire de l'électricité ». Vous êtes avec moi Audrey. Chers auditeurs, 10 étudiants de l'Institut ITS ont lancé l'idée d'utiliser les déchets de l'industrie sucrière pour optimiser les performances bioélectriques. L'innovation créée par les étudiants du département génie chimique ITS devrait pouvoir apporter des solutions pour réduire la pollution par les déchets industriels. Arif Pawoko, étudiant de la classe ITS de 2022, utilise la bagasse qui est souvent un déchet de l'industrie sucrière pour optimiser les performances bioélectriques. L'idée est née de sa préoccupation concernant la sous-utilisation des déchets de l'industrie sucrière et l'épuisement des stocks d'énergie en Indonésie. L'effort de traitement des déchets mené par Arif, comme on l'appelle familièrement, consiste à utiliser la bagasse comme substrat anodique dans le système microbial fuel cell, MFC. MFC lui-même est un système qui utilise les principes de la bioélectrochimie pour générer de nouvelles sources d'électricité à partir de matériaux naturels. Les substrats de bagasse lui-même à l'aide du champignon Aspergillus nigue est considéré comme capable de remplacer Saccharomyces, un micro-organisme couramment utilisé dans le processus de travail du système MFC. Tard arrive à révéler qu'après avoir traversé le processus de test, les performances bioélectriques produites par ces découvertes ont montré une augmentation. Il pense que ce résultat prouve que l'utilisation du substrat de bagasse est en fait supérieur et mérite d'être considéré par rapport à l'utilisation précédente des micro-organismes. Grâce à cette innovation, Arif a réussi à décrocher la troisième place du concours environnemental 2022 organisé par l'école professionnelle de l'Université agricole de Bogor, IPB, en août dernier. Il pense également que ces découvertes ne sont encore qu'une première étape pour que d'autres développements soient attendus à l'avenir. Bon chargé d'art, c'est tout, l'Indonésie en couleur.
Thank you. tak seperti biasa. Hati ini merasa takkan pernah terulangkan untuk kedua kalinya. Mungkinkah ku merasa cinta yang sesungguhnya? Ku persembahkan hanya kepada dirimu yang ku cinta.
Penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansen kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Waqaw intiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi shaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmini.
让正确佩戴口罩以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Voorkom de ketting overbrenging van COVID-19 door een masker te dragen.Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhinderen Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Chers amis, c'était la chanson pop indonésienne. Vous êtes toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz et sur le site web www.voinews.id. Sans retard, nous continuons notre programme avec le magazine musical. Bonne écoute. Bonsoir à toutes et à tous. Maintenant, c'est le temps pour le magazine musical. Et cette fois, nous vous présentons une chanson de Riau intitulée Kampar Maimbao. Sans retard, la chanson Kampar Maimbao raconte la beauté naturelle de la région de Kampar, Riau, qui manque toujours même si les gens sont partis à l'étranger. Les paroles contiennent la culture qui est encore bien préservée. Bon, chers auditeurs, voici Abi de la Rosa, Giring Riau Rhythm et Suang Project vont chanter une chanson de Riau intitulée Kampar Maimbao. Bonne écoute.
Gatoi. Mando da di palosungan kami manangi ito gade indu de takona.
Oh,
Chers auditeurs, c'était l'émission quotidienne en français pour ce soir. Merci de votre fidélité. Restez toujours avec nous, Voice of Indonesia, la voix de l'Indonésie au monde, sur la fréquence de 3325 kHz. Et n'oubliez pas de nous écrire votre suggestion et critique à notre adresse de courriel voi@voinews.id. Vous pouvez suivre notre compte de Twitter, @voiceindonesia, d'Instagram, @voice.of.indonesia. Joignez notre Facebook de Voice of Indonesia. Regardez-nous sur notre YouTube, Voice Indonesia. Et pour l'information plus détaillée, vous pouvez visiter notre site web www.voinews.id. On se rencontre demain, même heure et même fréquence. À bientôt.